Bienvenue à cette nouvelle édition d'Avec Podcast. Salut Claude Boucher.
Salut Marc-André.
Et cette semaine, écoute, on n'a pas le choix de revenir sur ce qui a marqué l'actualité au centre du Québec avec cette histoire entourant les Tigres de Victoriaville qui ont déjà eu l'air plus fin.
Oui, effectivement, mais on va être honnête, Marc-André, rappelons l'histoire. Après une victoire à Rimouski, il y a quoi, 2 semaines à peu près de ça, l'équipe revient de Rimouski, l'organisation pour remercier et pour récompenser les joueurs de cette victoire surprise contre l'Océanique, ouais. 2-0, alloue un montant de 500 $ qu'on distribue aux joueurs, donc ça leur donne à peu près 20 $ chacun pour s'amuser. Puis évidemment, tu arrives un samedi soir d'un match à Rimouski, il est tard, s'amuser... le samedi soir, ben c'est dans les bars que ça se passe. Les joueurs sont sortis. Les joueurs d'âge majeur, pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'il y a des mineurs qui sont allés dans les bars aussi. Ouais. Il y en a un qui s'est fait arrêter en état d'ébriété. L'organisation des Tigres qui, sur papier, les mesures qu'on prend étaient adéquates, je pense. Mais dans la pratique, il y a peut-être des joueurs qui sont passés dans les mailles du filet lors de cette fin de semaine-là. Mais la bonne affaire là-dedans, c'est que ça rappelle à toutes les organisations de hockey junior qu'il faut être vigilant parce que les joueurs sont confiés aux équipes. Mm-hmm. Malheureusement, il y a un jeune, lui, qui va devoir répondre de ses actes devant la justice.
Ouais. Il y a plusieurs éléments à analyser là-dedans. T'sais, écoute, c'est pas d'hier que les joueurs vont dans les bars. Je me rappelle de mon époque au cégep à Shawinigan, où on envoyait des joueurs des Cataractes à un moment donné débarquer en gang, puis tu le savais très bien, puis souvent toi-même, tu n'étais pas nécessairement majeur à ce moment-là, puis tu les voyais débarquer. Je pense que ça s'est fait de tous les temps, et d'autre part, je trouve qu'on est peut-être, en tout cas, moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il faut peut-être être un peu conciliant ou compréhensif avec le joueur des Tigres dans ce cas-ci, bien qu'il ait été en état d'ébriété, et ça, je condamne ça, ce genre de décision-là. Par contre, je me dis, il était arrêté. En quelque part, peut-être qu'il s'est dit « Ah, je suis capable ». Puis ouais. Là, finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas. Il s'est dit « La meilleure affaire que je puisse faire, c'est me stationner, puis éteindre l'auto, puis s'endormir là ».
Ouais. Je suis un peu d'accord, oui et non, avec ton point de vue. Il a quand même pris la décision de prendre sa voiture. Mais tu sais, il y a le président des Tigres, Charles Pellerin, qui a commenté et qui a dit, vous savez, à son âge relativement jeune, quand on est intoxiqué, on ne peut pas nécessairement prendre les bonnes décisions. L'âge n'a aucun rapport là-dedans. Quand
tu es
intoxiqué, là, il y en a beaucoup des adultes. On le voit au palais de justice. Là,
oui.
Il y en a beaucoup des adultes âgés. Et qui n'ont pas juste 25 ans, là, qui ont 50, 60 ans, qui sont accusés de conduite avec les facultés affaiblies. L'affaire là-dedans, c'est que si ça s'avère, c'est que l'entraîneur, Louis Robitaille, est allé au bar en question, parler avec son capitaine, entre autres, et si lui a constaté qu'il y avait des jeunes d'âge mineur là, c'est peut-être lui qui aurait dû intervenir là.
Ouais.
Mais quand il est allé, est-ce qu'il y avait des jeunes d'âge mineur? Le président de l'équipe a l'air à penser que oui. Ce sera peut-être la régie interne du côté des Tigres de Victoriaville, mais je le répète, c'est un signal de rappel pour toutes les organisations de hockey junior.
Effectivement, puis même pour les gens en général, parce que j'ai vu toutes sortes de gens condamnés sur les réseaux sociaux, entre autres, dire ça n'a pas de bon sens, mais regardez-vous le nombril un peu là-dedans.
Oh, et qui c'est qui est jamais allé dans un bar avant 18 ans? Il y en a, c'est sûr qu'il y en a, ouais. Mais la majorité du monde, on a tous déjà fait ça, aller dans un bar avant l'âge de 18 ans. Bien, l'affaire là-dedans, c'est que le jeune, malheureusement, était au volant d'une voiture lorsqu'il s'est fait arrêter.
Puis c'est là, comme je te dis, je condamne cet élément-là, c'est pas brillant, mais quand je regarde ça, je me dis, mettons, là, dans votre party de Noël récent, là, il y a un mois et demi, 2 mois, vous êtes parti du party de Noël, vous pensiez que vous étiez correct, vous êtes rendu compte que vous étiez un peu plus chaud d'ail que prévu. C'est quoi votre réflexe? Le réflexe de tout le monde, c'est de se dire « Je vais me trouver une place, je vais me parquer, je vais arrêter le char, puis je vais attendre de dégriser. » C'est le réflexe de tout le monde.
Ouais, puis tu parles des parties de Noël, juste comme ça à longueur d'année.
Ben
t'as
ouais,
du monde
ça.
Qui disait « Ah, j'ai pris un verre, ouais, je suis capable de conduire, ouais, je suis capable. » Quand tu te poses la question, en général, c'est parce que tu n'es pas capable.
C'est ça, exactement. En tout cas, mon idée de départ, c'est évidemment, il y a le laps de temps où il a quand même pris la voiture en état d'ébriété. Ça aurait pu causer toutes sortes d'incidents malheureux. Ce qui me... En tout cas, là où je vois un peu d'espoir, c'est que, selon moi, il s'est dit, finalement, je ne suis pas capable, je vais arrêter ça là. À partir de là, au moins, ça a été un peu plus logique. Mais effectivement, dans les faits, il n'aurait jamais dû embarquer dans cette voiture-là. Et comme tu l'as mentionné, bien, il y a quelqu'un qui devra, en quelque sorte, répondre de cette décision-là aussi.
Disons que c'est une patate chaude dont les Tigres se seraient bien passés et dont la Ligue junior majeure aussi se serait bien passée. Mais il y a des vierges offensées qui font leur gorge chaude à la suite de l'événement qui devraient se regarder avant de parler.
Oui, exactement. Puis à travers tout ça, les organisations, elles ont un pouvoir, puis elles n'en ont pas en même temps. Tu sais, le coach ne peut pas passer la soirée de, mettons, de 10h à 2h du matin avec les gars pour les surveiller. Tu sais, à un moment donné, on se fie sur le fait qu'il y a la majorité des gars dans l'équipe qui sont des adultes puis qui vont prendre la pôle.
Oui, c'est ça. Puis ils ne peuvent pas les tenir par la main 24h sur 24.
Là. À un moment donné, il faut être, disons, rationnel là-dedans aussi. Il y a des équipes pendant ce temps-là qui se concentrent sur le hockey puis ça paraît en tabarnouche sur la glace.
Okay. Oui, au détriment des plus faibles, dont les Cataractes de Shawinigan. Écoute, quelle séquence actuellement pour le Drakkar de Baie-Comeau. Premièrement, avec 10 victoires d'affilée. Ils ont récolté 21 points à leurs 11 derniers matchs sur une possibilité de 22. C'est quand même pas pire.
Oh oui.
Mais le malheur du Drakkar, c'est qu'eux autres, ils courent après les Vultures de Drummondville et les Huskies de Rouyn-Noranda au classement général. Ben, les Vultures et les Huskies ont gagné 9 de leurs 10 derniers matchs. Et si tu regardes derrière le Drakkar, il y a les Moussettes d'Halifax qui sont pas en reste non plus, parce qu'ils n'ont que 2 points de retard sur le Drakkar de Baie-Comeau. Bref, le Big Four, comme je les appelle, les Huskies, les Voltigeurs, le Drakkar et les Moussettes, qui devraient être les 4 équipes de tête jusqu'à la fin de la saison, se distancent tranquillement pas vite de l'Océanique de Rimouski. Puis l'Océanique est pas loin derrière, seulement 6 points de retard sur les Moussettes d'Halifax. Marc-André, j'ai fait le décompte.
Oui.
Dans les matchs qui restent à jouer pour les Cataractes, il leur en reste quoi? 23 d'ici la fin de la saison. Ils en ont 3 contre les Huskies.
Ouais.
2 contre les Vultures, 1 contre le Drakkar, et si je ne me trompe, c'est 3 contre l'Océanique de Rimouski. Fait que si tu fais le calcul, c'est 9 matchs sur 25 contre des équipes du top 5 de la Ligue. Est-ce que la commande faire les séries pour les Cataractes sera difficile? La réponse, c'est oui.
Ben, on se dit que peut-être que ces équipes-là vont vouloir reposer une coupe de joueurs à un moment donné, puis ça va nous donner une chance.
Ben, peut-être, mais d'un autre côté, les Sea Dogs de Saint-Jean, eux, sont dans la conférence de l'Est. Eux vont affronter plus souvent les Moussettes d'Halifax, les Islanders de Charlottetown, les Wildcats de Moncton. C'est pas des équipes faibles non plus. Là.
Non,
eux autres aussi n'ont pas un calendrier nécessairement facile. Mais regardons celui des Cataractes. Les Cataractes ont le contrôle des matchs dans lesquels ils sont impliqués.
Mm.
Et 3 fois les Huskies, 2 fois les Vultures, 1 fois le Drakkar, puis 3 fois l'Océanique, dont la classique hivernale. Grosse commande pour les Cataractes.
Oui, exactement. Puisque tu parles de classique hivernale, ça approche quand même à grands pas. C'est quoi dans à peu près une dizaine de jours, un peu plus?
Ça commence
peut-être
le 2 février.
Oui, c'est ça, une dizaine de jours, mettons. Et quand on regarde ça... C'est une question qui est soulevée d'ailleurs par Steve Turcotte dans sa chronique cette semaine dans le Nouvelliste en disant « Est-ce que les gens vont répondre à l'appel? » Parce que contre les Remparts de Québec, bon, c'est 2 équipes qui devraient se ressembler quelque part en termes d'effectifs ou de puissance. Contre l'Océanique, on s'attend à rien de moins qu'une dégelée, puis c'est même pas un jeu de mots avec la température qu'on va ressentir à l'extérieur.
Ben, c'est comme ça contre l'Océanique depuis le début de la saison. Les Cataractes sont déclassés à tout bout de champ par l'équipe de Serge Beausoleil. Ça risque d'être la même chose. Tu sais, sur la glace, on va être honnête, pour la classique hivernale, on n'attirera pas nécessairement les amateurs avec les performances des Cataractes sur la glace, c'est sûr et certain. On essaie d'attirer les amateurs avec la fête, le happening qu'on va créer. On va être honnête, c'est sûr que c'est le fun. C'est un événement qui revient pour la 2e fois en 4 ans à Saint-Tite, mais la prochaine fois que ça va revenir, ça se peut que ce soit juste dans 10 ans.
Mm-hmm.
On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Il faut en profiter pendant que ça passe. Mais c'est un fait que le produit sur la glace pour les Cataractes, contrairement à 2015, où les 4, ça avait une très bonne équipe. Cette année, c'est plus douteux un petit peu. Alors, on essaie d'attirer les gens avec l'événement qu'on veut créer et le fait que c'est un événement effectivement spécial. Puis c'est sûr que c'est très spécial. Puis qu'en tant qu'amateur de hockey, tu veux vivre l'événement. Tu as la chance de voir Alexis Lafrenière sur une glace extérieure. Ça va arriver juste une fois à Saint-Tite, puis ça va être le 8 février prochain.
Et Patrick Roy, s'il y en a comme moi qui l'ont connu dans ses meilleures années, ça vient me chercher, ça vient chercher les gens de ma génération, je pense, en quelque part. Mais effectivement, mais derrière ça, il y a une difficulté, puis c'est dommage pour l'organisation d'attirer les gens, parce qu'ils peuvent pas dire « On a une équipe à tout casser, venez nous voir, on va donner une féroce opposition à l'Océanique. » On souhaite que ça arrive, on souhaite que l'Océanique gèle quelque part en arrivant en Mauricie, puis qu'on sache en profiter. Mais reste quand même, puis il y a des joueurs intéressants du côté des Cataractes, on les connaît. Maverick Bourque en tête, mais je trouve cet élément-là dommage parce que l'organisation doit faire davantage d'efforts encore pour attirer du monde qui pourtant devrait réaliser présentement que, oui, c'est la deuxième fois en 4 ans, mais qu'après ça, ça va prendre combien de temps? Puis c'est le 50e de la Ligue. Si c'était pas le 50e de la Ligue puis que c'était pas la plus vieille concession, ce serait ailleurs cette année.
C'est sûr, s'il y en avait eu une troisième, c'est premièrement, ça. Mais les Cataractes ont accepté de prendre ce risque-là cette année. Je vais de mémoire à Marc-André. Il me semble qu'en 2015 aussi, les gens s'étaient un petit peu fait tirer l'oreille. C'est sûr que, tu sais, le match est à l'extérieur.
Ouais.
Si dans les jours précédents, on prévoit une météo, somme toute, relativement clémente, ça se peut qu'on vende plus de billets.
Ouais.
Si on annonce des moins 20, moins 25, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient c'est un petit peu plus frileux.
Ouais.
Je pense que ça va se faire probablement dans les jours précédents à la Classique Vernale, mais pour ça, qui se disent, ben moi, je veux y aller, puis que les billets ne sont pas achetés, c'est encore le meilleur moment parce que c'est là qu'il y a le plus de choix, c'est sûr et certain. Je pense que les gens vont répondre présent.
Mm-hmm.
Ce ne sera pas le fiasco de Drummondville. Puis encore là, c'est peut-être un gros mot.
La ville
de Drummondville a dû éponger quand même un pas pire déficit l'année dernière avec la Classique Hivernale. Je ne pense pas que ça va être le cas cette année du côté de Saint-Tite, mais il reste que je lève mon chapeau aux gens de l'organisation des Cataractes, surtout aux actionnaires, parce qu'on prend un risque financier en présentant cet événement-là cette année.
Exactement. Et parlons des matchs à venir pour les Cats.
Deux matchs à domicile en fin de semaine contre les Tigres de Victoriaville vendredi et un des matchs contre le Big Four en fin de semaine, c'est samedi contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Moi, j'ai hâte de voir les Huskies, honnêtement.
Mm-hmm.
Une très, très belle formation de hockey junior. C'est sûr que les Cataractes sur papier sont pas de niveau, sont pas de taille pour les Huskies. Les Cataractes vont devoir gagner le match de vendredi. Ça, c'est abordable. Si les Cataractes veulent engranger des points d'ici la fin de la saison, il faut profiter des matchs comme celui de vendredi contre les Tigres de Victoriaville. C'est impérial, c'est impératif pour les Cataractes de gagner le match de vendredi parce qu'honnêtement, je pense pas que les Cataractes vont soutirer des points samedi.
Ouais, quelle puissance.
Mais
quand
on
ne
sait jamais. On ne sait jamais. Ils ont amené le match exactement. En tir de barrage à Rouyn-Noranda. Ça se peut, tout est possible.
Voilà, et peut-être qu'on pourra profiter d'un niveau de concentration moins élevé chez les Tigres.
Oui, peut-être. Ben, oui, puis vendredi, en plus, c'est le match où on va honorer les joueurs de la décennie 90 chez les Cataractes. Et entre autres, je pense qu'il y aura des anciens qui seront là, peut-être Patrick Lalime. Mm. Patrick Lalime, c'est sûr, lui va être là à la Classique Hivernale. Même chose pour Pascal Dupuis et Dave Morissette également qui seront là à la Classique Hivernale à Saint-Tite. C'est normal.
Ouais.
À la télé, c'est TVA Sport qui est présentateur du match. Et curieusement, Dupuis, Lalime et Morissette travaillent et tous à TVA Sport et sont d'anciens Cataractes. Bref, ils vont être là pour la Classique Hivernale et il y aura plusieurs anciens également au match de vendredi au Centre Gervais-Auto.
J'aimerais beaucoup voir personnellement Stéphane Robida. C'était le mien.
Ouais.
J'ai commencé à m'intéresser aux Cataractes aux alentours de 91-92 et il en a fait partie là, de ces formations.
Lui qui a son chandail retiré, ben écoute, de cette année-là, il y a Stéphane Robida, Patrick Lalime, son chandail retiré. Lui était venu à l'ouverture officielle en début de saison. Écoute, on a ressorti Joe Hardy au début du mois de janvier, l'ancien entraîneur des Cataractes début des années 90.
Ouais.
Ça, c'était pour la cérémonie sur les bâtisseurs, mais en fin de semaine, ce sera pour les joueurs. Alors, cérémonie d'avant-match à ne pas rater vendredi soir sur nos ondes.
Et
moi, j'aimerais bien revoir Denis Paul, mais Denis Paul, c'est plus les années 80.
Ouais.
Bref, c'est ça. Alors, il y aura encore un peu de nostalgie au Centre Gervais-Auto en fin de semaine.
Et j'allais dire, avec mon chandail préféré des Cataractes, j'enlève rien à celui qu'on a présentement, là, mais puis vous me direz que le logo n'était peut-être pas inventif comparativement à ce qu'on voit aujourd'hui, là, un C dans un rond, là, ou à peu près, là, tu sais. Mais ce chandail-là, le blanc avec les épaules bleues, espèce de bleu royal.
Bleu ciel,
oui. Oui, c'est ça, avec le vert forêt. Je l'aimais tellement, celui-là, et bref.
Oui, ça rappelle des beaux souvenirs.
Exactement. Voilà, bref, pour la trêve de nostalgie et de mode. Là-dessus, merci aux gens qui ont écouté le podcast. Si vous avez des réactions, nous sommes facilement trouvables sur les réseaux sociaux. Donc, merci encore une fois, puis à la prochaine édition.